être crucifié. Du moins, tout ce qu'il devait subir pendant sa passion le jour suivant. Et on a dit qu'il y avait, dans l'attitude de Jésus lorsqu'il monte dans le cénacle, une sorte de majesté bienveillante qui se dégage de lui. Et puis, on a dit qu'il réparait pour tout ce que, tous les gestes, toutes les paroles qu'il posait, étaient dans le but, frères et sœurs bien-aimés, de réparer ce que l'homme a fait de mal. Et nous avons vu, mis en parallèle, deux mondes, le monde des réprouvés, tel que Jésus le révèle à Luisa Picaretta, dans la troisième heure, et le monde des élus. Le monde des réprouvés représenté par Judas Iscariote, et le monde des élus, n'est-ce pas, représenté, n'est-ce pas, par Jean. Donc Jean porte en lui le ciel parce qu'il a posé sa tête sur le côté de Jésus, sur le cœur de Jésus. Et Judas porte en lui l'enfer parce qu'il a décidé, frères et sœurs bien-aimés, d'aller jusqu'au bout de sa besogne et de trahir le maître de la vie. Frères et sœurs d'amour, nous avions dit que Jésus n'était pas un machiavélique, quelqu'un de sadique qui aurait décidé de choisir Judas, n'est-ce pas, parmi ses apôtres pour être le traître, et qui n'a pas inspiré à Judas justement les pensées de mort, les pensées de trahison, qui ne peut pas être celui, comme une certaine théologie a voulu le faire penser à un moment donné, que du fait de la nécessité de la mort du Fils de l'homme, qui est justement une cause lointaine et immédiate de cette mort, la cause lointaine c'est étant le salut, et la cause immédiate étant justement Judas. Non, ça c'est vraiment une fausse manière de voir les choses. Et on a ici pour nous quelque chose de profond, c'est que Jésus, frères et sœurs d'amour, et c'est ce que nous allons voir dans la quatrième heure, que nous allons décortiquer en plusieurs, au moins en deux fois, puisque c'est une heure tellement vaste, et nous voyons que Jésus travaille pour que Judas ne se perde pas. Jésus est pris d'une compassion profonde pour Judas Iscariote. Il a une forte, il va pleurer. Déjà, avant d'arriver à Judas, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui se passe pendant cette quatrième heure? C'est vraiment l'heure de l'institution de l'Eucharistie. Jésus va instituer l'Eucharistie de 20h à 21h selon justement l'enchaînement des heures. Et ce qui va se produire, frères et sœurs, c'est tout simplement admirable. Jésus, qui va d'abord, avant l'Eucharistie, va se mettre au pied de ses disciples. L'occasion nous était donnée le jeudi saint de méditer sur cet agenouillement de Jésus au pied de ses disciples. Et ici, il y a une description encore plus précise de cet agenouillement, tel que Jésus le montre à Luisa Picaretta. Frères et sœurs, dans cet agenouillement, il y a quelque chose de profondément, non seulement humble, mais aussi de profondément amoureux. Jésus est non seulement s'abaisse devant la créature, mais il est à genoux devant la créature pour réclamer son amour, pour mendier son amour. Jésus mendie l'amour de la créature. Nous nous rendons compte, frères et sœurs d'amour, nous nous rendons compte, Jésus mendie notre amour. Et ce qui va se passer est tout simplement incroyable. Luisa décrit Jésus justement à genoux, n'est-ce pas, et pleurant. Ça c'est ce que l'évangile ne nous dit pas, mais pourtant frères et sœurs, on ne peut pas s'imaginer autrement les choses. On ne peut pas s'imaginer que Jésus ait pleuré seulement trois fois dans sa vie, tel que les évangiles nous décrivent. Ce n'est pas possible. Tout comme dans une humanité qui était aussi compatissante que celle de notre Seigneur, qui n'avait aucune autre constitution que l'amour, qu'elle ne pleure que trois fois en 33 ans. Si tant est vrai qu'il n'a vécu que 33 ans. Ce n'est simplement pas possible. Et on peut imaginer Jésus dans ses nuits de prière, en pleurs, en larmes. Et d'ailleurs, les pères du désert parlent des larmes comme étant, frères et sœurs bien-aimés, l'effusion, le signe de l'effusion du Saint-Esprit. Contrairement à ce que nous avons parfois pensé, que le Saint-Esprit se manifestait par des miracles, des choses extraordinaires, laissez-moi vous rappeler que le démon fait aussi des choses extraordinaires, que le démon regarde aussi, n'est-ce pas, a des visions aussi, que le démon fait des miracles, peut ressusciter des morts, que le démon peut faire des choses éblouissantes, peut faire que le soleil tombe sur la terre, et ainsi de suite. Le démon est capable de cela aussi, frères et sœurs bien-aimés. Mais ce dont le démon n'est pas capable de pleurer. Le démon n'est pas capable de pleurer en vérité. Simplement parce que les pleurs, frères et sœurs, dans l'optique qui est le nôtre, est le signe profond d'une humilité et d'un amour infini. La compassion de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, se traduit dans les textes que nous avons vus, les pleurs sur Jérusalem, les pleurs devant le tombeau de son ami Lazare, se traduit justement par des larmes. Et les larmes, frères et sœurs, ici, les pères du désert le disent à longueur de temps, c'est le signe de la compunction du cœur. C'est-à-dire que le cœur est tellement broyé par l'humilité, le cœur est tellement broyé et brisé par l'amour, qu'il n'y a plus rien de l'ego qui subsiste. Et alors, qu'est-ce qui reste au cœur, frères et sœurs? Sinon, de s'épancher sur le cœur de Dieu et de pleurer d'amour. Jésus va pleurer d'amour aux pieds de ses apôtres, frères et sœurs d'amour. Nous nous rendons compte de cela. Il va pleurer. Et ainsi, il va de manière progressive aller de l'un à l'autre. Luisa a décrit la scène de ce lavement des pieds comme étant une scène tellement forte et émouvante que Jésus, frères et sœurs, va mêler ses larmes à l'eau qu'il verse sur ses apôtres, sur les pieds de ses apôtres. Et quand il arrive aux pieds de Judas, il y a quelque chose de tout simplement inouï et inexplicable qui se produit. Et comme nous l'avons dit ici, frères et sœurs d'amour, nous avons dit qu'il n'était pas possible et pensable que Jésus, n'est-ce pas, ait suscité en Judas des sentiments de trahison. Et ici, dans la scène que lui a décrit, quelque chose de particulièrement marquant va complètement nous bouleverser. C'est que Jésus, en plus de pleurer de tout son cœur, de toutes les larmes de son corps sur les pieds de Judas, mêlant ses larmes aux pieds qui coulent qui coule sur les pieds de Judas, Jésus va ensuite serrer les pieds de Judas contre son cœur. Jésus serre les pieds de Judas contre son cœur. Pour dire quoi, frères et sœurs d'amour? Pour dire quoi? Pour dire, je t'en supplie, ne t'égare pas. Reviens. Et non seulement il va serrer son... Il est décrit, lui a dit que Jésus sanglote. Jésus sanglote. Oh mon bon Jésus d'amour. Oh mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus d'amour. Pardon pour nos duretés de cœur. Pardon Jésus. Pardon. Pardon Seigneur. T'en supplie. Pardonne-nous nos duretés de cœur. Pardonne-nous nos duretés de cœur. Jésus va sangloter, frères et sœurs. Jésus va sangloter. Nous voyons ce que ça signifie. Jésus va sangloter. Il va dire à Judas, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne va pas au bout de ta besogne. Ne va pas au bout de ta besogne. Voilà pour ce qui est de la première partie, justement, de l'institution de l'Eucharistie. Et ensuite, frères et sœurs d'amour, Jésus va instituer, justement, l'Eucharistie. Alors, il institue l'Eucharistie. Comment les choses se passent? D'abord, il va s'adresser à son Père. Nous avons vu que tout au long de l'histoire de la vie de notre Seigneur, Jésus s'est toujours référé à son Père. Il ne faisait rien qui ne soit commandé par le Père. Il ne faisait rien qui ne soit dans l'obéissance à son Père. Et nous avons dit que le fait de cette communion de volonté entre le Fils et le Père faisait que Jésus ne pouvait pas faire des choses par lui-même. Il fallait qu'il se réfère constamment au Père. Et donc le Père est pour lui, frères et sœurs bien-aimés, avec lui ne font qu'un. Qui m'a vu a vu le Père. Et c'est pour cela que dans toutes les actions qu'il va poser, y compris jusqu'à l'institution de son corps, qui, comme nourriture de vie éternelle pour l'ensemble de l'humanité, il va encore lever les yeux vers son Père et prier tout comme à la croix, le dernier souffle sera remis à son Père. Il est venu de son Père, il retourne à son Père. Nous voyons bien, frères et sœurs, bien-aimés, le cercle. Il est sorti du Père et il retourne au Père en jetant le dernier souffle. Et dans l'entre-deux, tout ce qu'il fait, c'est toujours dans la volonté de son Père, dans la communion de volonté dans son Père, avec son Père. La vie dans la divine volonté, la voilà. Personne, certains pensent que lorsqu'on est dans la divine volonté, on devient Dieu et puis on se coupe de tout. On est, voilà, une mauvaise et destructrice compréhension de la vie dans la divine volonté, qui est quelque chose de particulièrement, redoutablement destructeur et mauvais. Frères et sœurs d'amour, Jésus nous demande une seule chose, humilité, 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 humilité. C'est la voie de l'obéissance, c'est la voie de l'amour, c'est la voie de la sainteté, c'est l'humilité, c'est l'humilité. Et certains disent, voilà, je suis dans la divine volonté, maintenant c'est Dieu qui fait tout en moi, maintenant c'est lui qui pense en moi, maintenant c'est lui qui parle en moi. Mais déjà le simple fait de croire qu'on est quelque chose, parce qu'on est dans la divine volonté soi-disant, c'est la preuve, frères et sœurs bien-aimés, qu'on est bien loin de la divine volonté, qu'on n'y est pas du tout. C'est la preuve. La seule et unique preuve de la vie dans la divine volonté, c'est l'obéissance au Père. Comme Jésus l'a fait. Nous ne nous appartenons plus, nous appartenons au Père. Nous appartenons à Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, dit Saint Paul, Galates 2:20. Si nous vivons, dit Saint Paul, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Que nous soyons vivants ou morts, nous appartenons au Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, et Jésus va s'offrir à son Père en premier, avant de s'offrir dans l'Eucharistie. Avant de s'offrir dans l'Eucharistie, il s'offre d'abord à son Père. Oh mon beau Jésus! Et en s'offrant à son Père, qu'est-ce qui se produit, frères et sœurs bien-aimés? Il est un avec son Père. Et quand il entre dans l'Eucharistie, il n'est plus le singleton Jésus. Il n'a jamais été le singleton Jésus de toutes les façons. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans l'Eucharistie, c'est la vie divine qui est communiquée. C'est la Trinité qui loge dans l'Eucharistie. Vous voyez, frères et sœurs d'amour, vous voyez ça, mes chers sœurs bien-aimés et frères. Voilà, voilà le grand mystère. Voilà le grand mystère de l'abandon à Dieu. Si nous voulons multiplier les vies divines, laissons-nous absorber par le cœur de Jésus. Laissons-nous absorber en Dieu. Et il fait la multiplication. Pourquoi Jésus était-il apparu après sa résurrection à 500 autres personnes à la fois? Pourquoi est-ce que il y a eu ce don d'ubiquité qui l'a dispersé en des milliers, en des centaines d'exemplaires? Saint Padre Pio, lui, carrément, il a fait fort, lui. À sa mort, il est apparu à plus de 2000 personnes à la fois. Plus de 2000 personnes. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette capacité en eux d'être multipliés, frères et sœurs d'amour? Simplement parce qu'ils sont en Dieu. Et c'est pourquoi, dans chaque hostie, il y aura la Trinité jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à la fin du monde. Parce que Jésus, s'étant donné à son Père pleinement, a pu être complètement distillé dans toutes les autres réalités. La divinité prend le dessus sur l'humanité et les prérogatives de la divinité, les idiomes de la divinité sont affectés à l'humanité et l'humanité ne peut que suivre le divin, être partout avec Dieu. Frères et sœurs d'amour, aimons Jésus, aimons Jésus, aimons notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, aimons Jésus, Aimons Jésus de tout notre cœur, parce que son amour est sans fin. Son amour ne connaît pas de bornes. Son amour ne connaît pas de limites. Son amour est infini et nous saisit dans les tréfonds les plus reculés de notre être. Et nous sommes désormais définitivement configurés à sa gloire. Simplement, frères et sœurs, parce que nous ne nous appartenons plus. Le secret de la victoire chrétienne est dans l'absolu et total abandon à Dieu. Frères et sœurs, voilà la première partie, du moins une des premières parties selon notre découpage de cette quatrième heure. Et l'occasion nous sera donnée de continuer demain la suite de ce qui se passe pendant la scène. Les leçons spirituelles sont inépuisables. Et pour celui qui veut véritablement se nourrir et grandir dans le Seigneur, il ne lui reste plus qu'une seule chose. Prends les 24 heures de la Passion. Prends ton Nouveau Testament. Médite la Passion selon Saint Jean. Médite les 24 heures de la Passion. Évolue. Comprends. Laisse-toi imprégner par l'amour infini de Dieu qui se distillera dans les moindres petites particules de ton être. Dans tes cellules, ton sang, ta respiration. Laisse Jésus construire son ciel en toi. Je t'en supplie, ma sœur bien-aimée. Je t'en supplie, mon frère bien-aimé. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes avec l'amour infini de Dieu. C'est pourquoi lorsque l'heure viendra pour nous de voir Jésus, quand nous serons devant lui, nous verrons la première chose que nous verrons, frères et sœurs bien-aimés, ce ne sera pas d'abord notre péché. Ce sera son amour infini qui n'a pas de borne. Et nous verrons au cœur de cet amour infini la dissemblance chronique avec notre vie tiède qui a manqué d'amour. Et comme dit, n'est-ce pas, le témoignage de Saint Emmanuel, la première chose que nous ferons, ce sera de prendre nos clics et nos claques et d'aller dans la direction qui nous convient le mieux, sans que Jésus nous dise quelque chose. Aimons Jésus, frères et sœurs bien-aimés, pour que ce jour-là, nous soyons totalement absorbés en lui et que sa grâce, en ce jour et maintenant, soit notre rempart et notre seule force. Dieu vous bénisse, frères et sœurs d'amour. Dieu vous bénisse et que Jésus soit votre rempart et votre force. Que son amour vous inonde et vous immerge. Soyez bénis. À tout de suite pour le chapelet, les mystères joyeux du Saint-Rosaire. Que Dieu vous garde, mes chers sœurs bien-aimés. Que Dieu vous garde, chers sœurs et frères. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Béni sois-tu éternellement. Sois béni, sans fin, sois béni. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Augmente notre amour, notre espérance et notre foi. Sois béni, Jésus. Sois béni, sois béni.